RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, c'est de 9h à midi, c'est tous les jours, c'est en direct, vous prenez la parole au 32-16. Aujourd'hui, nous sommes avec Laura Varton-Martinez, sophrologue, nous sommes avec Bérénice Levé, philosophe, et Abel Boyi, qui est avec nous, qui est éducateur. D'ici midi, nos sujets de discussion. À midi moins 20, ce site qui a été créé pour demander pardon à Kylian Mbappé. Kylian, on t'a critiqué, Kylian, on a dit que t'étais plus digne de nous, mais Kylian, maintenant, te demande pardon, tu nous fais un super début de Coupe du Monde. Est-ce qu'on doit s'excuser auprès de Kylian Mbappé? Midi moins 20, pour en parler au 32-16. 11h20, le président des départements de France qui ne veut plus sanctionner les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h. Jusqu'à présent, vous savez, pour les 5 km/h, vous ne perdiez plus vos points, mais vous payez l'amende de 135 €. Le patron des départements dit non, il faut monter à moins de 10 km/h et puis on ne paye plus l'amende non plus. Est-ce que là, dans ces cas-là, on tend pas la main là, et du coup, c'est pas la porte ouverte à tout, aux excès quand même. 32-16 pour en discuter avec nous. En attendant, on va accueillir un potentiel candidat à l'élection présidentielle.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est quoi la vie si je peux pas aimer mes gens? C'est quoi la vie si je peux pas élever mes sens? C'est quoi la vie si je peux pas en donner un peu? Humilité et force d'aller plus loin quand je m'en remets à Dieu.
C'est Népal, Trajectoire, parce que Trajectoire, c'est le nom du mouvement que vous portez à travers votre Tour de France, à travers le pays. Manolo Mlekuz, j'espère que je prononce bien.
Mlekuz.
C'est assez proche.
Mlekuz, 20 ans, en van, il sillonne le pays. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez garé votre van devant la radio?
Non, je suis à Montreuil, là. Donc, moi, j'habite là, donc je suis venu en métro.
Quelle idée de vouloir se présenter à l'élection présidentielle et peut-être de perdre du temps à aller chercher des parrainages? Pourquoi, en fait?
Bah, il y a deux réponses à cette question. Déjà, il y a un sentiment personnel. La politique, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Et j'étais à une période, quand j'avais 16 ans, où j'étais en quête de sens. Et donc, du coup, j'ai réuni les deux dans un projet qui permettait de me donner une raison d'exister et d'être heureux, tout simplement. Et puis aussi, il y a quelque chose de plus collectif. J'ai l'impression qu'on est dans une situation politique compliquée. Et je pense que l'enjeu institutionnel et démocratique n'est pas du tout pris assez au sérieux. Et donc, j'espère jeter ma pierre et permettre qu'on parle plus de démocratie dans le débat public dans la prochaine année.
Qu'est-ce que vous apportez de différent au-delà de votre âge?
Bah, moi, j'ai un projet qui est uniquement institutionnel. Donc ça, déjà, c'est un peu du jamais vu.
C'est-à-dire
qu'en fait, moi, mon projet se concentre uniquement sur une réforme des institutions. Ce que je propose, c'est de faire un petit peu comme une convention citoyenne pour le climat, pour la fin de vie, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ce serait le même processus, mais cette fois pour rédiger une nouvelle constitution. Et ça, c'est ma seule proposition. En fait, moi, si jamais j'arrive au pouvoir et que j'habite à l'Élysée, ce qui va se passer, c'est que j'organiserai de nouvelles élections législatives. Et à l'issue de ces élections législatives, le président ou la présidente du parti ou de la coalition qui arrivait en tête sera nommé premier ou première ministre. Et ce sera à lui et son gouvernement de diriger la politique de la nation.
Là, ça existe déjà, hein. C'est ce qui se fait aujourd'hui.
Ça,
déjà.
C'est la cinquième république.
Je vois pas où est la
différence, c'est qu'en fait, moi, je présente pas de parlementaires. À chaque fois que les gens arrivent avec des programmes,
ils ont
des programmes socio-économiques
qui présentent.
Donc, non, il y aura pas de parti présidentiel. Une espèce de reine d'Angleterre, quoi, parce que sans pouvoir, alors.
Du coup, sans pouvoir, complètement. Mais le pouvoir, avec l'article 11, de, du coup, soumettre un référendum, un projet d'organisation des pouvoirs publics.
Une nouvelle constitution.
Oui.
Avec une nouvelle, ce qu'on appelle une assemblée constituante, quoi, en fait.
Voilà,
c'est ça.
Tout à fait.
Enfin, pardon, mais.
Et en fait, la condition de cette assemblée constituante, c'est qu'elle soit composée d'un échantillon représentatif.
Mais il y a déjà un candidat qui propose ça. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours dit.
On sait toujours pas. Hein.
En tout cas, la fois dernière, on verra son programme là, mais il voulait effectivement une convention, et changer de république une fois élu. Je crois que vous avez été proche de la France Insoumise.
En effet, vous êtes bien informé. J'ai fait un stage, moi, auprès de Juliette Prados, qui était l'attachée presse du groupe parlementaire de la France Insoumise. J'ai plus été proche du Parti Socialiste.
Oui, alors pourquoi ne pas militer chez les filles ou au PS? Et pourquoi s'en dégager?
J'ai été déçu de certaines méthodes de la France Insoumise. J'ai été confronté à des trucs avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord.
Par exemple, faut dire.
Faut dire là vraiment. Allez, on est vraiment en déballe. Non, mais moi j'ai le premier, la première fois que j'ai vu un politique mentir en direct, c'était chez la France Insoumise, c'était Louis Boyard. Et ça m'avait pas mal marqué en fait quand j'étais petit. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une première polémique qu'il avait eue, c'était sur le fait qu'il avait refusé de serrer la main à des députés RN. Ouais. Et en fait, je l'ai vu serrer la main de tous les députés RN. Si vous regardez les images d'LCP, elles sont encore publiques sur YouTube. Vous remarquez qu'il serre la main notamment de Julien Oudoul. Et je me suis retrouvé derrière la caméra d'LCP dans la salle des quatre colonnes et je l'ai vu dire devant tout le monde que on était dans une pandémie de racisme, d'antisémitisme et donc non, il ne fallait pas serrer les mains du Rassemblement National. Et j'ai pas compris. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est assez normal. Alors, je pense que c'est pas uniquement LFI le problème, hein. Je pense que tous le font. Et le RN aussi en a profité, alors qu'il savait très bien qu'il leur avait serré la main.
Est-ce qu'il vous choquait, c'était le mensonge ou le fait de serrer la main?
Ah, non, moi, c'était le mensonge.
Ah.
C'était le mensonge.
Pas de serrer la main.
Bon, serrer la main, c'est chacun fait ce qu'il veut, moi, c'était vraiment le mensonge qui m'avait affecté. D'accord.
Et donc, quels échos vous avez en sillonnant la France quand on vous voit arriver avec vos nouvelles idées d'assemblée constituante et tout? Comment vous êtes accueilli alors?
Ça dépend qui écoute, mais j'ai des très très bons échos. Moi, ça se passe très bien. Sur les 80 maires que j'ai pu rencontrer, on estime qu'on a une vingtaine de signatures, parce que des fois, il y a des maires qui sont hésitants. C'est pas forcément oui ou non à la fin du rendez-vous. Et ça se passe en fait très très bien. Ça se passe très très bien. Les maires... ils sont d'accord avec quelque chose que je propose. En fait, ils sont d'accord déjà avec l'idée de revoir un petit peu les différentes échelles de pouvoir. Je parle beaucoup de décentralisation. Je pense que c'est une idée intéressante qui est pas assez portée. Et puis ils sont d'accord avec la déconnexion de la politique nationale. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut remarquer.
Est-ce que vous me permettez quand même de vous poser la première question qui me semble importante? Vous dites que vous avez toujours été intéressé par la politique. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la politique? Et quand même, être président, c'est répondre de la continuité historique d'un pays. Donc, est-ce que c'est ainsi que vous entendez la politique? Et en tout cas... Quel est cet intérêt que vous avez tôt porté et le sens que vous lui attachez?
Politique, ça vient de polis, donc la cité, et la politique se définit comme étant l'organisation de la cité. Et la politique, c'est dès qu'on doit avoir une réflexion collective. C'est-à-dire que le seul moment où vous ne faites pas de politique, c'est si vous êtes seul sur une île déserte. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre avec vous, faites de la politique. Alors vous devez vous organiser. Il y a quelqu'un qui fait à bouffer, il y a quelqu'un qui va chercher du poisson, et donc on a directement une organisation.
D'accord, mais vous voyez là, vous êtes juste en horizontal, c'est-à-dire avec le présent. Et ce qui est pour moi le problème de tous les politiques, hein, c'est que justement, être, alors a fortiori président de la République et de la France... C'est avoir le souci de répondre en fait d'un héritage devant les morts, les vivants et ceux qui viendront après nous. C'est-à-dire justement la responsabilité et implique d'embrasser ces trois temporalités. Est-ce que vous voyez cela ainsi? Parce que là, tel que vous le définissez, en gros, c'est le vivre ensemble, le collectif, etc. Mais moi, ce que j'aimerais, ce qui me manque chez tous les politiques, c'est l'épaisseur temporelle, l'épaisseur historique. La France, elle n'est pas née aujourd'hui, elle est un héritage que nous avons à perpétuer. Est-ce que vous avez justement cette vue temporelle? Est-ce que vous la prenez en considération ou vous vous souciez simplement de faire qu'aujourd'hui on puisse vivre ensemble tel que la France est devenue? Ou est-ce que vous vous dites il y a une histoire qui a été commencée et que j'aspire à vouloir continuer?
Vas-y, t'as 30 secondes.
Très large,
30 secondes seulement.
Alors moi j'ai fait des études d'histoire, donc je suis très attaché à ça. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment trouvé de précédent sur ce que je faisais. Le fait d'arriver avec un projet uniquement institutionnel, c'est un petit peu du jamais vu. Le seul exemple qu'on peut citer, c'est le mouvement des chartistes en Angleterre au XVIIIe siècle. Et donc, c'était un mouvement en fait qui voulait juste démocratiser la vie politique anglaise et qui réfléchissait profondément au fait que quand on a du pouvoir politique, on a la capacité de changer ses conditions de vie et ses conditions de travail. Et donc, moi, c'est dans cet héritage-là historique que je puise, dans l'idée que l'égalité politique, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement les institutions, c'est pas quelque chose de très flou, c'est juste la capacité de se défendre et d'améliorer sa propre existence.
Laurent Berton-Martinez.
Bonjour déjà.
Bonjour.
Moi j'essaye de comprendre. Admettons que vous êtes demain, alors j'ai bien compris le principe, je change la constitution et faire en sorte que les Français revotent tout de A à Z. Ça j'ai. Mais pour que les Français votent, il faut que les Français votent quelque chose. Donc par exemple, vous arrivez au pouvoir en 2027, début mai 2027, comment vous articulez justement, alors admettons ça, vous avez fait tomber la Constitution, comment vous articulez, quelle proposition par exemple vous faites pour le ministre de l'Intérieur?
C'est-à-dire comment j'articule moi la rédaction de la Constitution? C'est un processus de 2 ans qui va mobiliser entre 500 et 10 000 personnes. Et c'est un processus qui aboutit du coup à la rédaction d'une nouvelle constitution
soumise à référendum.
Vous gardez un ministre de l'Intérieur.
Bien sûr, c'est le Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les élections législatives, il y a un Premier ministre qui est nommé, il va composer son gouvernement, et puis ensuite la France va gouverner comme dans une période de cohabitation.
Vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas juste servir aux Français l'idée « je change la Constitution ». Vous devez avoir malheureusement, heureusement même plutôt, une colonne vertébrale économique, sociale, et tout ce qui s'ensuit, vous êtes obligé.
Moi, c'est justement le point sur lequel je suis en désaccord.
Pendant 2 ans, si vous êtes président et que vous nommez un premier ministre qui va nommer un gouvernement,
je nomme pas un premier ministre. C'est plus compliqué que ça.
C'est ce que je vous demande, c'est comment ça se passe.
Bien sûr, mais en fait, s'il y a des élections législatives, il va y avoir un parti ou une coalition qui va arriver en tête de ces élections.
Et c'est vous qui avez le pouvoir de nomination encore, puisque vous n'avez pas changé la constitution.
En fait, je suis dépendant d'un parlement qui accepte la nomination. Je peux pas nommer n'importe qui si j'ai un parlement qui m'est opposé.
Donc il y a un gouvernement pendant 2 ans qui va gouverner. Vous serez pas forcément d'accord avec ce qu'il va faire.
Bien sûr.
Mais peu importe.
C'est comme une période de cohabitation. Il n'y a vraiment aucune différence avec ça.
D'accord.
Alors, Tony Parker a une citation qui dit « Si vous racontez votre rêve à quelqu'un et qu'on ne rigole pas, ça veut dire que vous ne rêvez pas assez fort. » Donc moi, je pense que vous faites un pari sur l'avenir et que vous êtes très réaliste. Mais moi, j'ai quand même une question, parce que vous pouvez pas être juste à l'Élysée en train de manger des pains au chocolat et dire aux autres « débrouillez-vous ». Vous voyez, vous êtes jeune, vous êtes impacté par ce qui se passe au sein de la jeunesse, parce que le premier exemple que vous avez donné, c'est Louis Boyard, qui se distingue par sa jeunesse. Quelle est votre vision pour la jeunesse en France avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit la jeunesse des villes, la jeunesse des campagnes?
Question très large encore. Ma vision pour la jeunesse, déjà il y a plein de...
Dans la temporalité, comme ça a été dit, comment vous voyez la jeunesse à l'horizon 15, 20, 30 ans?
Elle se mobilise, vous sentez qu'elle veut se mobiliser pour cette présidentielle, elle a envie de voter, parce que ce sont plutôt les jeunes qui ne votent pas aujourd'hui.
Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on place la responsabilité sur les jeunes. En disant, mais regardez, c'est quoi cette génération à la con qui s'intéresse pas à la politique? Alors qu'en fait, on est face à un problème qui est systémique. C'est le système politique aujourd'hui qui arrive plus à intéresser la jeunesse, parce qu'il est plus vu comme une solution face aux enjeux auxquels on est confronté. Et donc en fait, c'est là moi aussi une des raisons pour lesquelles mon discours parle à beaucoup de maires, c'est parce qu'en fait ils sont en première ligne, ils sont à portée de baf, mais surtout à portée de discussion de leur administré, et ils constatent de plus en plus les jeunes qui sont difficiles à mobiliser. J'ai vu pas mal de maires qui ont eu extrêmement de mal à mobiliser des jeunes dans leurs conseils municipaux. Et du coup, ça veut dire que la politique doit être faite différemment parce qu'elle ne correspond plus à cette génération.
Aujourd'hui, on a une politique faite par des vieux pour des vieux, quoi, en fait. Je caricature.
L'âge de la retraite, ça vous touche, le débat sur l'âge de la retraite? Vous vous en moquez complètement, très franchement.
Alors, en fait, le problème de ce débat-là, c'est que je sais qu'on va avoir le même dans 10 ans et dans 20 ans. Et que donc, je sais que l'âge là qu'on va définir, c'est pas forcément l'âge avec lequel moi je vais exister. J'ai quand même fait les manifestations. Mais non, c'est pas la question qui me touche le plus.
Et la question qui vous touche le plus aujourd'hui, c'est laquelle?
Réchauffement climatique, pour le coup.
Voilà. C'est ça.
Réchauffement climatique, la canicule, c'était quand même moi, c'est la première expérience de ma vie où j'ai été confronté à ce point au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on parle de la montée des eaux. Moi, je la vois pas, j'habite à Montreuil. On parle de la fonte des banquises. Je les ai jamais vues, les banquises. Quand il fait 50 degrés dans mon appart, ça, je le vois. Et si ça, c'est l'été le plus froid de ma vie, l'été va être compliqué jusqu'au restant de ma vie. Et donc, c'était impressionnant. Dans le réchauffement climatique, c'est clairement...
Mais est-ce que vous trouvez que, justement...
Et d'ailleurs, ce qui me permet juste un petit point.
Oui.
Parce qu'en fait, moi aussi, une des expériences qui a été fondatrice, c'est la Convention citoyenne pour le climat. En fait, j'ai trouvé que cette manière de prendre des décisions, elle était vraiment bien.
Mais
en fait, quand tout a été balayé du revers de la main par les politiques en place, ça m'a profondément dégoûté. Et il y a eu une confrontation de légitimité où en fait, je ne me reconnaissais pas dans la légitimité.
Vous avez la clim dans votre van?
Non, j'ai rien du tout.
C'est vrai?
Ah, c'est un van de 2006, c'est un vieux Nissan.
Mon
frère qui l'a enlevé en plus.
Les conventions citoyennes ont été totalement investies par des associations militantes, donc on ne peut absolument pas ériger ce modèle en modèle de démocratie exemplaire. Il était évident qu'il y avait quand même une manipulation des des personnes qui étaient présentes et ça a été avéré. Donc
les associations n'avaient aucun pouvoir décisionnaire dans la Convention citoyenne. Hein. C'était
elles étaient très présentes et les discours qu'elles tenaient étaient très...
Mais elles faisaient du lobbying. Mais ce n'est pas un sale mot, le lobbying.
D'accord, mais en face, les gens comme moi n'étaient pas invités. Des gens qui pouvaient apporter la contradiction, plus encore compétents que moi, mais qui pouvaient apporter quelques objections.
Je me permets de m'opposer.
Une convention citoyenne, c'est sa représentation, effectivement.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'on est vraiment représentés, nous, citoyens, par 200 personnes qui sont quand même encadrées par des gens qui dirigent les débats, il faut quand même bien le dire, parce qu'ils ont des intérêts louables.
Si je puis me permettre, il y a une des propositions à l'origine d'Emmanuel Macron, c'est de soumettre toutes les propositions qui avaient été faites par la Convention citoyenne à référendum.
Ça, c'est une bonne idée.
Ah ben oui, mais sauf que c'est jamais suivi.
Donc finalement, il a fait aucun référendum.
Mais moi, c'est justement ce que je reproche. Il aura beaucoup
moi, ma constitution, elle est soumise à référendum. La constitution que je promets, elle est soumise à référendum.
Donc, redonner le pouvoir au peuple.
Donc, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de décalage entre ce qu'a fait la représentation et ce que pense la population.
Merci de passer par les GG.
Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité.
On va s'arrêter là. On va suivre votre parcours. On va voir comment ça évolue, si vous avez vos 500 signatures ou pas. Et si vous les avez pas, vous rejoignez une écurie présidentielle ou pas?
Ah, c'est loin encore, mais on va les avoir.
Et là, vous repartez sur la route?
Là, je repars sur la route en septembre, j'ai encore le temps.
D'accord, un peu de vacances quand même.
Je fais Paris, Marseille.
Et si certains sont intéressés par vous rencontrer, vous suivre, discuter avec vous,
tout le monde peut m'envoyer un message sur Insta, il n'y a aucun problème.
C'est quoi votre site?
Alors, c'est Trajectoire 2027.
Trajectoire 2027, Manolo Blécuze, qui est candidat à l'élection présidentielle. Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules. N'allez pas perdre de points sur la route. Hein. Faites attention, on va s'intéresser à ce que veut le président des départements. Ne plus sanctionner les excès de vitesse en dessous des 10 km/h et ne plus enlever de points non plus.
Je pense à mes gars, fonce des dents la nature. La drogue, c'est ce qui fait que des gens bien se reposent pendant que des enfoirés travaillent dur.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, et vous savez que si vous ratez les GG, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est 24 heures sur 24. C'est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify. Attention, en ce moment, il y a un petit problème sur Apple Podcasts. Ce sont des mises à jour. C'est un peu compliqué. Le problème est en cours de résolution, nous dit-on, du côté d'Apple. Donc rendez-vous en attendant sur l'application RMC. Ça, c'est la principale source. Ou sur rmc.fr. C'est dit, comme ça, au moins, vous saurez pourquoi il y a des petits problèmes. On va s'intéresser à ce qui se passe sur la route. On va s'intéresser à ce qui se passe sur la route et à cette demande de François Sauvadet. François Sauvadet, il est à la tête des départements de France aujourd'hui et il a vu, comme tout le monde, vous savez, ses études qui montrent sur les nationales et les départementales les changements incessants de vitesse. Et parfois, on ne sait plus à combien on roule. Donc, il dit, face au radar qui s'amuse beaucoup, eh bien, moi, j'ai une proposition. Voilà ce que dit le sieur Sauvadet. Olivier.
Oui, alors, tout d'abord, il faut rappeler, je sais pas, je pensais que tu lançais François Sauvadet.
Non, parce qu'on n'a pas
c'est
le
dommage,
son.
Parce qu'on avait envie de le revoir, son François Sauvadet.
Un ami.
Oui. Déjà, Gérald Darmanin avait assoupli le dispositif, souvenez-vous, puisque depuis le 1er janvier 2024, les conducteurs ne sont plus pénalisés par la perte d'un point de permis pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km par heure au-dessus de la vitesse retenue. Mais on doit toujours payer une amende de 135 euros. Monsieur Sauvadet va plus loin. Il veut que l'État fasse preuve de souplesse. Il dit, voilà, il faut une tolérance jusqu'à 10 km/h. Donc, il faudrait ne plus sanctionner ceux qui font un excès de vitesse supérieur, enfin, qui va jusqu'à 10 km/h. Donc, plus de points retirés, mais aussi plus d'amendes. Et oui, il est comme ça, Monsieur Sauvadet. Il veut de la tolérance sur les routes départementales. Est-ce qu'il a raison?
Non. Il a, enfin, à mon sens, il a pas raison. Moi, je me mets complètement du côté de
la prévention.
De la prévention et de. Il me semble que c'est
la répression.
C'est hein. de la présidente de l'association de la sécurité routière là qui a parlé. En fait, le réel problème, c'est quoi? C'est la multitude de changements de vitesse. Moi, je sais que pour aller à Poissy, là où ma mère travaille, sur cette route, mais je ne sais pas, je passe mon temps à faire 70, 80, 90, 70, 80, 80. Et en fait, c'est en là qu'on perd les points et que les gens ne savent plus à quelle vitesse rouler. On fait un truc à 80 Point barre. Il ne faut pas descendre la vitesse, il ne faut pas faire de laxisme. On voit que tous les efforts...
Ça va envoyer un mauvais signal.
Mais ce n'est pas ça, c'est au-delà du mauvais signal, ça va contre les statistiques qui montrent que la mortalité routière baisse. Donc il ne faut pas qu'on fasse marche arrière. En revanche...
10 km/h, ça va la faire réaugmenter.
Vu que 10 km/h en moins, ça l'a fait baisser.
Elle a raison.
Est-ce qu'il n'y a pas une question de gros sous? Parce que les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h représentent 80% des PV issus des flashs de radar. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on nous raconte, heureusement qu'on a mis des radars parce que les gens qui roulent comme des dingues, non. Les radars sont là surtout pour sanctionner des petits excès de vitesse. Les Français sont assez raisonnables. On voit bien qu'il y aura un manque à gagner quand même. Assez considérable. Je pense que c'est aux alentours de plusieurs centaines de millions d'euros en moins pour l'État. Je pense que Monsieur Sauvadet va pas être suivi. Mais est-ce qu'il a pas tort quand il dit finalement on emmerde plus les gens qu'on agit vraiment pour la sécurité routière?
Moi je vais répondre de façon égoïste, je suis pour forcément, parce que des fois aussi on a l'impression qu'on nous place des radars uniquement pour nous piller, c'est ça aussi le sentiment des automobilistes, et moi qui habite à la campagne effectivement des fois je ne sais pas 70, 80, 90 le radar qui flash puis qui ne flash plus mais qui t'a quand même chopé, et on se retrouve en plus avec beaucoup d'actes de vandalisme de radars ou qui sont cassés, sur lesquels des scotchs sont mis pour ne pas que les automobilistes puissent être chopés, donc je pense que c'est une bonne chose, et aussi il faut responsabiliser indépendamment de la question financière, il faut pouvoir responsabiliser les automobilistes. On peut pas dire aussi d'un côté État nounou qui nous prend tout ce que nous avons et pour 10 km/h ça va augmenter les morts sur les routes. Non, pas du tout. En Allemagne vous avez des tronçons où il y a pas de limitation de vitesse, j'ai pas vu qu'en Allemagne il y a tellement plus de morts sur les routes qu'en France.
On a toujours dit que les Allemands étaient plus disciplinés que les Français.
Aussi mais on a ce paradoxe où on a le maximum des amendes qui sont en corrélation avec des petits excès de vitesse, mais je ne pense pas que ce soit sur les petits excès de vitesse qu'on a les plus gros accidents de la route. Donc c'est déjà une contradiction philosophiquement.
C'est sur les départementales et les nationales que tu te tues le plus, ça, on est d'accord. C'est pas sur les autoroutes. Est-ce que c'est une question d'excès de vitesse ou pas sur les nationales? Est-ce que c'est une question d'accidentologie de la route?
Il y a l'alcool, il y a les stupéfiants.
Exactement.
Oui, je vous donne un exemple de tout ça. Moi, ma mère, là, en allant bosser tous les matins à Poissy, elle arrête pas, elle fait des stages de
récupération.
Alors qu'elle roule. Honnêtement, ma mère, c'est un escargot sur la route. Mais en fait, elle ne sait jamais.
Excès de vitesse.
Oui, et elle ne sait jamais si c'est le tronçon à 70, à 90, parce qu'en plus, sa voiture lui dit 80. Le Waze lui dit 90, elle me dit je sais pas où je suis. Donc je pense que si déjà départemental, national, on fait une limitation simple, je pense que ça enlèverait déjà pas mal d'excès de vitesse. Après en revanche, oui, sur les autoroutes, moi je suis désolée, et même parfois sur le périph, quand tu vois qu'il est 2h du matin, de rouler à 50 sur le périph, bien sûr que ça te met la rage et que tu te dis que le truc il est là que pour te prendre tes sous. Mais on peut pas être tout blanc, tout noir. Je pense que
tu veux pas envoyer de mauvais signal sur la vitesse. Bérénice.
Oui, moi, d'abord,
tu conduis.
Je ne conduis pas.
Ah, pas de permis.
Non, pas de permis. Et donc, j'ignore absolument tout cela. La seule chose, c'est que, effectivement, je pense que c'est un mauvais signal quand même de toujours abaisser. Moi, en revanche, donc, je marche énormément. J'aimerais qu'on sanctionne, mais je crois qu'on n'a aucun moyen.
Les cyclistes.
Voilà, parce que le vrai danger, en tout cas en ville, ce sont les vélos. Et eux, il faudrait véritablement qu'il y ait des sanctions, mais absolument. Mais ils se sentent.
Mais est-ce qu'on n'a pas changé d'époque? Parce que on se souvient dans les années 70 où Georges Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français. Et la France était la France des automobilistes.
Là, on n'y est plus.
Oui, c'est ce que je te dis, on a changé d'époque. Aujourd'hui, est-ce que l'automobiliste est encore quelqu'un qui vote avec sa voiture ou pas, quoi, tu vois, comme
avant. Avec les gilets jaunes.
Mais oui, mais c'était
heure.
Oui, mais il y a plus
pas longtemps.
Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Je finis juste mon raisonnement, c'était pour les 80 km/h, c'était le point de départ qui après a cristallisé beaucoup de colère. Finalement, depuis, on a une essence qui est montée à 2 euros, 2,30 euros. On n'arrête pas de se faire taper effectivement, comme ta mère, avec des flashs incessants. Et tu te dis, mais t'en as marre, on entend le mot raquette, mais est-ce que ça te fait encore voter?
Ah si, moi je pense.
Est-ce qu'aujourd'hui, le Français dit, moi, l'automobile, j'en ai assez, mon essence, les radars, mes points, etc., voilà, je vais sanctionner.
Mais moi, je pense que ça nourrit précisément le vote de
RN.
De droite, parce que, précisément, eux, les vélos, C'est l'électorat de gauche qui est totalement soutenu et promu par les partis de gauche. Et donc, les automobilistes, moi, je suis pleinement de leur côté. Donc,
finalement, il a raison, ce président de département, en disant arrêtez d'emmerder les automobilistes, on va faire des vaches à lait.
Et par contre, sur ce plan, oui, je trouve que il y a une différence de traitement qui n'est pas légitime, en tout cas.
Enfin, on sait très bien que l'automobiliste, c'est le bouc émissaire et la vache à lait. Ouais, c'est-à-dire le bouc émissaire de tous les problèmes et la vache à lait. Voilà, les vaches à lait, parce que c'est, enfin, avoir une voiture, c'est quand même quelque chose. Ça coûte
on a fortune. Bien vu quand les gens ont arrêté de rouler à cause de l'essence. Les gens ont arrêté de rouler à cause de l'essence. On a vu l'économie dans l'état dans lequel ça l'a mis avec les fermetures
d'entreprises. Alors,
parce qu'on est gouverné par des gens qui habitent Paris, qui n'ont pas de voiture et qui oublient que 7 Français sur 10 en France prennent chaque jour, 7 Français sur 10 prennent chaque jour la voiture pour se déplacer, aller travailler. Déposer exactement. Les enfants, aller se faire soigner, etc. Et le problème, c'est qu'il y a un prisme très parisien de la circulation.
Oui.
Ah, ben Pompidou roulait en Porsche, on a changé d'époque. Il a eu une Porsche, Georges Pompidou.
Non, mais on est dirigé par des. Pardon, mais on est dirigé par des gens qui ne conduisent pas, qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas d'enfants. Et ces gens-là.
Qui nous donnent la leçon sur comment conduire et comment éduquer leurs enfants.
Ne sont pas assez représentatifs.
Cécilia est avec nous. Bonjour Cécilia, bienvenue dans les GG, Cécilia.
Bonjour à vous les grandes gueules. Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites-il là? Oui, bien sûr.
C'est une. Vous m'entendez?
Oui, bien sûr.
Alors, voilà, je vous explique ma situation par rapport à ces 10 km/h d'excès de vitesse. J'ai 30 ans de permis et j'ai pour 1 km/h, j'ai eu une amende. J'ai perdu un point que j'ai récupéré, évidemment, il y a 2 ans de cela.
Pour combien?
Pour un kilomètre. C'était une zone à 40. En fait, vous voulez citer, j'allais sur Dijon.
En fait, c'est 6 km.
80, c'était 80-90. J'ai perdu un point. Ouais. C'était la première fois de ma vie, donc ça m'a fait un choc. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et voilà. Et puis, c'est quand même assez,
aberrant.
C'est le mot. Aberrant,
injuste, c'est injuste.
C'est injuste. Après, l'histoire des 10 km/h, bon, après, il faut relativiser quand même. Mais je ne sais pas. Je pense qu'il faut assouplir quand même cette chose. Ça a été assoupli, d'ailleurs. Ça a été assoupli, mais maintenant, j'ai trouvé ça comme...
Mais Cécilia, est-ce que ça vous a fait changer de comportement sur la route?
Oui, ça m'a fait... je roule tout le temps, en fait. En plus, j'ai des voitures assez puissantes. Et le pire, c'est que je me suis fait flasher. Et je me suis fait flasher avec la plus petite des voitures.
Oh là, donc, mais vous avez un parc automobile,
change chaque jour,
Cécilia. Voilà. Vous avez combien de voitures, Cécilia? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous.
Sur les 4.
4?
Qu'est-ce que vous avez comme voiture, Cécilia?
Oui, Et donc, même on va au Nürburgring, donc c'est pour vous dire.
Hein? Mais au Nürburgring, c'est un circuit. Avec quelle voiture vous allez sur le Nürburgring?
Mais c'est à Tibisa, Cupra.
Ah, vous êtes une fan de voiture, en fait.
Ça avance quand même.
Mais vous êtes une collectionneuse?
Non, on aime bien les voitures. Mon fils a le permis. Le deuxième va le passer en novembre, etc.
Et vous allez vous éclater sur le Nürburgring?
Surtout mon fils aîné. Moi, non, parce que j'ai encore un peu peur. Mais
et avec quoi vous roulez au quotidien? Avec quelle voiture vous roulez au quotidien?
Cupra Léron.
Ouais, mais c'est incroyable le circuit du Nürburgring parce que il est au milieu de la forêt. C'est plus longs d'Europe d'ailleurs.
Exactement, et qui est un circuit mythique, mythique pour les légendes qui l'ont parcouru, mythique pour ses accidents aussi,
complètement morts.
Donc on maîtrise la route, je fais la conduite accompagnée pour mes deux fils, et moi ce que je trouve inadmissible, c'est le fait de perdre un point de permis pour 1 km/h.
C'est pas 1 km/h, parce qu'en fait, il retire 5 km. C'est les 5 km, la marge d'erreur. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est pour 6 km/h, vous avez perdu un point.
Alors, Cécilia, on va écouter Hervé qui est avec nous. Bonjour, Hervé. Alors, est-ce qu'il est là? Voilà, bonjour, Hervé. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Hervé?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord de faire sauter l'amende. Par contre, oui, la minorer, mais du genre 5 ou 50 euros pour les petits excès de vitesse. En revanche, faire sauter ce point, faire sauter ce retrait de point totalement inutile. Mais moi, en fait, les radars automatiques, j'ai toujours espéré voir ça à l'aune de la sécurité routière. C'est-à-dire que pour moi, en revanche, il faudrait vraiment un audit de voir quels sont les radars dont l'emplacement est vraiment justifié en termes de sécurité routière et faire sauter les pompes Afrique. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, la nationale entre Châteaudun et Vendôme. Grande nationale, bourre en vêtements, toute droite. On passe de 90 à 80 parce qu'on change de département. Il n'y a pas aucun changement des conditions de sécurité. Bon, ben, je vois le panneau 80, je relâche l'accélérateur, je n'ai pas sauté sur les freins. Et ben voilà, 80 retenu.
Voilà.
Et donc
voilà, c'est une amende, 80 km/h retenue. Voilà, et ce radar-là, en termes de sécurité routière, je ne vois pas son intérêt.
Ouais. Non, là, c'est juste derrière le changement de vitesse, c'est juste pour prendre les sons.
Donc, pour moi, il faudrait vraiment un audit de voir quels sont les radars qui sont justifiés.
De la transparence.
Voilà, et je pense qu'une grande part d'entre eux s'explique, se justifie totalement. Même si l'automobiliste qui s'est fait prendre va râler, parce que je suis aussi motard, donc la fragilité sur la route, je sais ce que c'est. Mais il y en a certains qui ne se justifient que par l'intérêt.
Moi, je trouve le meilleur des systèmes. Serait que, mais ça va coûter trop cher sans nous, ça serait qu'on puisse déplacer ces radars automatiques, les faire tourner. C'est-à-dire qu'ils sont, parce qu'il y a des radars qui sont là depuis des années, on le connaît, etc. Il faudrait changer. Alors, il faudrait sur la même route les mettre ailleurs, etc. Je pense que ce serait plus efficace. Bon, après,
merci Hervé. Voilà,
tu proposes une dépense supplémentaire.
Bravo.
Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va voir justement, après vous avoir écouté, après en avoir discuté, ce que vous en pensez. Pas de flash en dessous de 10 km/h, pas de retrait de points. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, à 76%.
Monsieur Chevadet, donc, président.
Bérénice, je pense que les Français votent encore avec leur permis.
Exactement.
Avec les GG, avec les grandes gueules. Pardon, Kylian, doit-on présenter nos excuses à Kylian Mbappé? À tout de suite au 32-16. Il est midi moins 20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Allez, il nous reste 10 minutes encore ensemble.
Le marathon est bientôt terminé, Bérénice, rassure-toi.
Oui,
mais c'est un marathon, les grandes gueules.
Ça
tient le rythme.
Beaucoup. Ah non, très sympathique. Très
3 heures, hein, quand même.
Ah ouais. Mais un vrai défi, mais non, c'est agréable.
Un défi à relever, Bérénice.
Non, mais on ne voit pas les 3 heures passer.
Tant mieux. Laura Varcon-Martinez, sophrologue, Abel Boyi.
Ah oui, c'est une très bonne ambiance.
Éducateur. Et puis, il y a tout ce qui se passe pendant la pub aussi.
Oui, ben voilà.
Oui.
Mais on voit qu'elle est. On voit qu'Alain Marchal et Abel sont pas les mêmes pendant la pub.
Et voilà, oui.
Allez, parlons de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. 17 000 signatures d'une pétition lancée par des internautes pour dire Kylian, pardonne-nous, on a été méchant avec toi.
La France s'est mal comportée. On a douté, on a critiqué, on a été ingrat. Il est temps de réparer. Voilà ce qu'on peut lire en préambule du site. Alors voilà ce qu'il y a dans le texte. Chaque signature et chaque acte de contrition sera relié dans le grand livre du pardon national. Un ouvrage solennel qui sera remis entre les mains de Kylian Mbappé. L'intégralité des actes sera aussi publiée en ligne. Une archive publique et éternelle du repentir de la nation. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de second degré dans cette pétition, mais en même temps, c'est vrai que Mbappé a été très critiqué ces derniers temps. Moi-même, qui le défends bec et ongle depuis toujours dans cette émission, j'ai été obligé de m'expliquer chez Jérôme Rotten un soir. Et d'ailleurs, je vois que les faits me donnent raison, puisque de nouveau, Mbappé devient notre héros national. Et en fait, ce que reprochait notamment Jérôme et d'autres, c'est la communication, en disant Mbappé, il a le boulard, il est trop arrogant, etc. Bon, ce qui compte quand même pour un joueur de foot, c'est ce qui se passe sur le terrain et on le voit dans ce mondial. Alors il y a aussi un autre reproche qu'on a porté concernant l'attaquant Ligue de France, c'est sa prise de position sur Naël après la mort de ce jeune de 17 ans. Souvenez-vous de ce tweet,
ce petit ange parti trop tôt.
Donc Mbappé défendait la mémoire de Naël. On lui avait reproché cela. Donc
oui, et puis il y a eu ses propos aussi contre le RN.
Exactement, contre le RN. Plusieurs fois répété. Voilà. Alors, est-ce qu'on pardonne tout à Mbappé parce qu'il nous fait gagner?
Non, pour ma part, mais Pourtant, Dieu sait si je suis pour distinguer, c'est le cas pour Patrick Bruel notamment, mais pour Gérard Depardieu ô combien, pour distinguer
l'œuvre
de l'artiste. Donc, moi qui ne connais rien non plus, je ne conduis pas, je n'ai jamais regardé de ma vie un match de football, mais je veux bien qu'il fasse honneur à la France. Façonneur à la France par son jeu. Bon, mais cela étant, il profite quand même de son statut pour donner certaines leçons au peuple français qui peut être électeur justement du RN. Et moi, je ne lui pardonne pas. Et alors, a fortiori, son fameux "un ange nous a quittés", on n'entend jamais lorsqu'il s'agit d'autres enfants assassinés. Donc voilà, moi je ne lui pardonne pas. Je pense que on peut lui rendre hommage en tant que joueur de football, mais ne pas lui pardonner certaines de ses errances.
Alors moi, en premier lieu, pour rester sur le sujet, franchement, ça, je m'en fiche. Tant mieux qu'il soit soutenu par les gens. Tant mieux si les gens veulent s'excuser. Moi, j'apprécie.
Est-ce qu'on a été trop injuste avec lui?
Mais je sais. Après, c'est le jeu. J'ai envie de te dire, tu es censé faire ton travail. Je regarde les supporters de Marseille comme ils sont durs avec les Marseillais, etc. Si les gens ont envie de s'excuser parce qu'effectivement là, il fait bien son travail, bah tant mieux. Moi, j'aime pas le personnage, mais j'ai jamais critiqué. Déjà, je serais moins bien placé, mais j'ai jamais critiqué le joueur. Par contre, ce que tu viens de dire, Valérie, c'est chaud. C'est-à-dire que tu pardonnes des violeurs et tu les sépares de leur. Enfin, tu sépares des violeurs des acteurs, mais par contre, tu ne sépares pas un joueur des polémiques.
J'ai dit, c'est contradictoire parce que d'ordinaire, je sépare.
Oui, bah c'est bien sûr, c'est le d'ordinaire.
C'est
le d'ordinaire là qui me choque un peu. C'est-à-dire que dans le pour cas eux, j'arrive bien à garder, je sépare bien les artistes des violeurs. Par contre, là, je déroge à ma règle.
De Kylian Mbappé, je veux bien le reconnaître comme un grand joueur. Je ne lui pardonne pas pour autant ses positions. Mais cela étant, moi, il est vrai que ça m'est indifférent, mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire des pétitions. Pardonne-nous, Kylian.
Mais ils l'ont critiqué sur son jeu, il s'excuse de l'avoir critiqué sur son jeu.
Oui, enfin, on n'a pas critiqué que sur son jeu.
Si tu regardes la pétition, tu peux cocher parce que je lui ai dit qu'il ne courait pas, parce que j'ai dit qu'il.
Si bah, c'est juste.
C'était sur le jeu.
Si des griefs exclusivement qui concernent le joueur.
Oui, c'était ça.
Abel. Okay.
Pendant des années, on en a voulu aux footballeurs parce qu'on disait que c'est des gens bêtes qui ne savaient courir qu'après un ballon. Là, on a un footballeur qui est un leader, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit, c'est-à-dire il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit, et il a pas peur de le dire sur la place publique, à l'instar de ce que font justement les sportifs américains qui s'engagent, qui prennent beaucoup la parole sur les faits de société. Et je trouve que c'est intéressant. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Maintenant aussi, tu as des footix aussi qui lui en veulent parce qu'il a quitté le PSG et que le PSG a gagné deux fois la Ligue des Champions sans lui. Et certains même espéraient que entre lui et Ousmane Dembélé, qui a eu le Ballon d'Or et pas lui, que ça puisse faire des tensions. Or, ce sont les meilleurs potes du monde, en fait. Donc, Mbappé, à son niveau, c'était normal qu'il fasse une bonne Coupe du Monde. Le contraire aurait été justement une contre-performance.
Attends, elle commence la Coupe du Monde. Hein,
oui, bien entendu. Mais
pour le moment, c'est un bon début.
Pour l'instant, c'est un bon début. Et si la France devait être éliminée samedi, ce ne serait pas de sa faute du tout. Le positif resterait.
Attends, donc, on verra. S'il peut encore rater un pénalty.
Arrête
trois pénaltys.
Ou tirer en l'air alors que le but est vide, c'est ça. Non, mais maintenant, cette pétition, c'est un peu le folklore français. C'est-à-dire que voilà, c'est mignon, il y a une Coupe du Monde. Ouais. Ça nous permet aussi d'un peu penser à autre chose sans oublier les sujets qui vont revenir après pour la présidentielle. Donc c'est intéressant, mais Mbappé, il s'en fiche de tout ça. Lui, il fait ses performances. Et moi, c'est un joueur que j'applaudis parce que c'est un vrai bonhomme, comme on dit, quoi.
Y compris en parlant hors du terrain.
Mais évidemment. Après, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais moi, j'aime les gens qui assument ce qu'ils disent et qui ne sont pas hypocrites, justement, en se taisant parce qu'ils ont peur de parler, ou alors pire, qu'ils disent le contraire, ce qu'ils pensent devant caméra et hors caméra.
Après ce qu'il dit, c'est assez conventionnel. C'est convenu. C'est-à-dire qu'il
Pourquoi on lui reproche alors? Pourquoi on lui reproche si c'est convenu et que ça ne sert à rien? C'est contradictoire.
Il pense, mais il pense pas.
C'est un abruti, c'est ça. Il pense pas.
Mais il répète simplement. Voilà. Alors,
peut-être pas.
C'est pas dans la culture française pour les sportifs de se positionner sur les questions
de dire je suis contre le RN. Pardon, sincèrement, il prend pas de risque.
Ah ouais, là,
on avait un joueur de l'équipe de France qui disait moi, je suis pour le RN. Là, je peux te dire que ça serait matin, midi et soir dans tous les journaux. Alors, on serait là à dire oui, c'est un scandale, il peut plus continuer à jouer, il peut plus jouer dans l'équipe de France, etc.
Je suis d'accord, mais
il est capitaine de l'équipe de France. Donc, c'est vrai que la question se pose, est-ce que le capitaine de l'équipe de France doit se prononcer politique.
Je vais te donner un autre exemple. 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui. Tu te souviens pas quand on allait demander aux joueurs de l'équipe de France ce qu'ils en pensaient ? Oh, c'est pas mon rôle de m'expliquer. Ils ont tous eu peur de parler. Ben non, mais c'est-à-dire qu'ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient.
Ils pouvaient le dire.
Les joueurs sont des citoyens.
Mais parce que une équipe représente
une nation dans sa diversité.
Exactement. Et alors là, parmi les supporters, je pense qu'on a autant d'électeurs.
Mais c'est pas le problème. Il a le droit de dire qu'il n'aime pas Marine Le Pen, mais représenter toute la France dans son esprit. Ça n'a rien à voir.
Quelle autorité il a pour nous dire Surtout que dans le cas de Kylian, dans le cas de Kylian Mbappé, qui plus est, c'était pas simplement exprimer sa position, c'était de décourager, de déconseiller aux gens de voter le RN. Donc il se faisait prescripteur.
Merci Bérénice Levé d'avoir été dans les Gigi aujourd'hui.
Sur Internet,
à bientôt, Laura. À bientôt, Abel. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi. Il y aura Charles Consigny, Didier Giraud. Et nous serons avec Joël Dagosséry. Bonjour, Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va revenir sur ces scènes de chaos, ces bagarres, ces salariés agressés après la mise en vente de climatiseurs pour Lidl. Est-ce que la marque doit s'excuser ? Alors, la marque est comme si de rien n'était.
C'est ce qu'a demandé un délégué syndical de la boutique de la marque Lidl ce matin.
Ça paraît logique quand même. Puis on va parler des profiteurs de guerre, entre guillemets, qui revendent ces climatiseurs 4 fois le prix aujourd'hui sur Le Bon Coin. Faut-il rendre le Nutri-Score obligatoire ? Il y a une pétition pour ça qui a récolté plus de 65 000 signatures. Est-ce que ça influence vos choix alimentaires ? Le Nutri-Score, en tout cas, c'est rentré dans notre quotidien. On se posera la question à midi et demi. On parlera de l'assurance maladie qui veut interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009, pour ou contre. Et puis aujourd'hui, c'est le top départ, enfin sauf pour nous, mais des congés d'été pour énormément de Français. La tendance, c'est les vacances à la montagne. Un Français sur cinq va partir en vacances à la montagne. Est-ce que vous seriez prêt à délaisser la mer pour la montagne ? Ça, on en parlera à 14h. Qu'est-ce qu'il y a, Alain ? Vous dites non, là ?
Non, j'y vais d'ailleurs à la mer. Là.
Eh bien, vous aurez trop chaud, c'est tout, c'est pas grave.
Absolument pas. La montagne, ça va cartonner cet été, tu vas voir.
Mais oui, mais.
Ils vont changer au dernier moment.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de surtourisme aussi, voilà, c'est d'air pur. Les gens ne s'en cassent pas.
Ils vont chercher de l'air froid.
Voilà. Vous allez à la plage à Nice, Alain ?
C'est moins cher.
Non.
Ok, bon, écoutez, c'est super.
Comme dialogue.
Non, je vais à côté.
J'ai
mes petits coins. Ah, mes coins secrets.
Bien sûr. Et puis, le tu préfères, bouteille en verre ou canette ?
Canette.
Bouteille en verre.
Canette.
Bah, ça dépend.
Ah non, Coca en bouteille. Oui.
La bière en verre.
Il y a un côté un peu à l'ancienne.
Moi, j'aime bien la verre.
Mais moi, j'aime bien même. Je vais même te dire, la bière, j'aime bien la verser dans un verre.
Ah, je déteste ça. Ça, c'est un très bon.
Un petit verre à bière.
La bière au goulot.
Je note, mais bien sûr, la bière au goulot. Évidemment. Je déteste les gens.
Et au goulot aussi, non.
Mais bien sûr.
Allez, 32-16 avec Estelle.
Geoffrey, tu préfères lundi.
Avec modération, bien entendu.
Bien sûr.